Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Puisque l'époque est aux lettres ouvertes, aux tribunes, aux pétitions, aux prises de parole publiques, en voici au moins deux publiées en avril qui concernent notre sujet du jour. Ainsi, le 6 avril, en plein confinement, le collectif Parapluie Rouge, qui regroupe plusieurs associations de travailleuses et travailleurs du sexe, adresse au président de la République une lettre ouverte pour attirer son attention sur la fragilisation des TDS au temps du corona. Même si les personnes prostituées souhaitent s'isoler et cesser de travailler, explique la tribune, leur immense précarité ne le leur permet pas toujours. C'est mourir de faim ou mourir du Covid, s'alarme plus directement un quotidien. Quelques jours plus tard, c'est sur le site de Médecins du Monde qu'apparaît une lettre ouverte, signée par plusieurs ONG dans le domaine de la santé. Leur approche se veut pragmatique. Réduire les risques en partant des besoins des personnes, de leurs conditions de vie, de leurs capacités, bien davantage que réprimer, ce qui n'aboutit qu'à stigmatiser, discriminer et à la fin prolonger les épidémies. Après avoir constaté qu'un grand nombre de TDS ne parvenaient plus à subvenir à leurs besoins primaires, comme se nourrir, se loger, se laver, se soigner, cette tribune réclame la création d'un fonds d'urgence ainsi que la mise à l'abri ou le maintien dans le logement pour les cas les plus difficiles. À la suite de quoi, quelques journaux relaient les revendications, quelques personnalités réagissent sur les réseaux sociaux, on s'indigne, et ensuite, ça fait pchit, il ne se passe rien. Enfin, pas à ma connaissance. Heureusement, quelques associations de TDS ont mis en place des cagnottes pour apporter des aides de premier secours aux personnes prostituées. Plusieurs mois après le déconfinement, à l'heure où l'épidémie semble reprendre de la force, c'est donc le moment d'écouter les difficultés de celles qui se nomment elles-mêmes escortes, TDS ou encore qui participent à des théâtres et des spectacles érotiques. Trois récits racontés par Pauline Verdusier. Je précise que cette émission présente des contenus à caractère sexuel qui ne conviennent pas forcément à toutes les oreilles.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Lolita, j'ai 20 ans et je viens de Bordeaux. Je suis étudiante en lettres et langues espagnoles. Parallèlement à mes études, je suis escorte. C'était très compliqué avec ma mère et j'ai commencé à être à la rue. Parce que ça alternait, quand son petit copain venait, je devais partir. C'était très compliqué d'enchaîner les cours, les squats et tout ce qui suivait derrière. Et ce qui fait que j'en suis arrivée à devenir escorte. Je cherchais de l'argent très rapidement. Pour moi, cette activité, elle me sert à vivre, pouvoir m'acheter à manger, payer mon loyer, enfin... toutes les dépenses obligatoires de la vie. Et ça me permet également de pouvoir me faire plaisir. Parce que bon, sinon, je pense que si je faisais ça juste pour les dépenses obligatoires de la vie, je continuerais pas. Il y a beaucoup de personnes qui jugent. C'est pas eux, plus tard, qui auront ma vie. C'est pas eux non plus qui vont me donner à manger. C'est pas eux qui vont me donner un toit. Donc c'est vrai que maintenant, je passe vraiment outre les critiques et je vis ma vie. Quand le confinement a commencé, j'étais devant l'annonce de Macron. J'étais avec mes amis au moment où il a annoncé qu'il y avait le confinement, on a tous sauté de joie. On était contents, on s'est dit « chouette, ça va être génial ». Sauf qu'au final, ça a été génial une semaine, hein. Après, c'est vrai que l'argent a commencé à manquer. On avait fait des stocks de nourriture, d'un peu tout. J'étais confinée avec mon petit copain qui est mon ex maintenant et mon meilleur ami. Mon meilleur ami avait un peu de revenus, mais il avait tout dépensé à ce moment-là, je crois. Mon ex, aucun revenu. Et au début, je voulais pas pratiquer mon activité d'escorte. Sauf que au bout d'un moment, j'ai été obligée... d'y aller. J'avais quand même vraiment peur parce que de un, il y avait une amende de 135 euros. Donc c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit bon, Si je mets que je vais travailler, ça peut passer, sauf qu'au fait, non, pas du tout. Donc, bon, je me suis jamais pris d'amende, mais j'ai été contrôlée par la police une fois. Bon, j'ai menti, j'ai dit que j'allais voir ma grand-mère, qu'il fallait que je lui apporte des médicaments et tout ça. Pourtant, j'allais pratiquer mon activité, mais bon, c'est vrai que je pouvais pas me permettre de payer 135 euros d'amende, alors que, bah, fallait d'abord que je paye tout ce que j'avais à côté. De base, dans une journée normale, sans confinement, sans Covid, je peux avoir jusqu'à 40 messages par jour. Pendant le confinement, j'avais pas beaucoup de clients, ça allait plus entre 2-3 grands maximum par semaine, sachant que beaucoup voulaient négocier. Ils me disaient, oui, bah écoute, on est en période de confinement, de Covid, je prends des risques, donc bon, tu pourrais bien faire un petit effort sur le tarif. Ou sinon, c'était directement, bah, je sais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients. Moi, je suis un client et je suis, on va dire, rare, entre guillemets. Et donc, du coup, pour 30 minutes, tu feras 80 ou 100 euros, pas plus. Normalement, mes tarifs, c'est par exemple 150 pour 30 minutes, 250 pour une heure. J'ai vraiment essayé de les maintenir, mais c'est vrai que parfois, ça m'arrivait une ou deux fois de céder à des négociations. Pour, par exemple, 80 ou 100 euros pour 30 minutes, ou 200 de l'heure, j'étais bien obligée, parce que sinon, quand je vois que le frigo était vide, on était trois et du coup, je nourrissais tout le monde. C'est vrai que c'est une habitude pour moi de subvenir aux besoins des autres. Parce que bon, vu que j'étais à la rue, quand on vient me voir, excuse-moi, mais là ça fait deux jours que j'ai pas mangé. Maintenant que j'ai les moyens, je dis t'inquiète pas, viens, on va au fast-food, on va se prendre un petit truc. Ou je sais que cette nuit il fait froid, si tu veux tu viens chez moi, tu viens passer quelques jours. Enfin, si quelqu'un a besoin de manger ou quoi que ce soit, je donne. Quand je voyais la courbe des nouveaux cas, des décès, je me suis dit peut-être que la prochaine fois ce sera pour moi. Parce que c'est vrai que je voyais des gens de toute la France, mais vraiment toute la France, parce qu'il y avait quand même des déplacements professionnels malgré le confinement. C'est vrai que quand tu te retrouves face à un client qui a un rhume et que tu as besoin d'argent, tu peux pas refuser. Généralement, je me déplaçais à domicile parce que normalement, je fais aussi des plans voiture. J'ai dû en faire quelques-uns. C'est lorsque le rapport se fait dans la voiture, mais vraiment pas beaucoup parce que bon, les plans voiture, c'était beaucoup plus risqué que d'habitude. Dans les clients qui venaient pendant le confinement, il y en avait beaucoup qui venaient pour le travail, donc ils avaient envie d'une petite compagnie. Il y avait aussi des hommes mariés, mais qui étaient confinés ailleurs que leur femme. Donc c'est à ce moment-là où je me déplaçais à domicile. Des hommes tout seuls aussi. Eux, ils n'étaient pas plus solidaires. Généralement, tous les clients que j'ai pu avoir pendant le confinement, le Covid, ils s'en fichaient. J'ai essayé de mettre en place des gestes barrières. Sauf que ça demandait de faire baisser les tarifs, parce que du coup il n'y avait plus de bisous, c'était beaucoup moins glamour avec un masque. Pareil pour le gel hydroalcoolique, il y avait toutes les excuses possibles et imaginables. Ça me pique les mains, j'aime pas ça. Je me suis dit il va bien falloir que ça se passe sans geste barrière, parce que sinon ça se passera pas du tout. Donc obligée de fonctionner comme ça. C'est vraiment profiter d'une situation de détresse. À chaque fois que j'avais un petit mal de tête, tout de suite je m'affolais. À chaque fois je croyais que j'avais le Covid, mais je l'ai pas eu. Alors au déconfinement, au niveau du nombre de clients, il y en avait quand même pas beaucoup, ça a réaugmenté un petit peu, mais vraiment pas grand chose. La peur du virus a été toujours présente. Bon, maintenant ça s'est beaucoup atténué, cette peur-là. Même à l'heure actuelle, où j'ai repris mon activité beaucoup plus que pendant le confinement, comme avant le confinement, je l'ai pas attrapé. Bon, il suffit d'une fois, mais c'est vrai que j'ai passé le plus gros sur le virus. Et dans cette période, ce qui me gênait, c'était que bah, les travailleuses du sexe, on était vraiment très très oubliés. Parce que certes, pour bah, je pense 80-90% d'entre nous, on n'est pas déclarés. Sauf qu'au final, on participe quand même à la vie de la société. Donc c'est vrai qu'une aide, bah, ça aurait permis justement de pouvoir rester chez nous, de subvenir à nos besoins, sans avoir le stress de comment on va manger demain, est-ce que demain on va pouvoir payer notre loyer. On devrait tous être solidaires, que ce soit travailleuse du sexe ou pas, parce que c'est une période qui est compliquée pour tout le monde. On est vraiment tous dans la même galère, on va dire. Tout le monde peut attraper le Covid. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, c'est vraiment tout le monde. Donc, ben, on devrait vraiment tous s'entraider parce que sur ce coup-là, on est vraiment égaux.
France Culture, les pieds sur terre.
Je travaille sous le nom de Mia Belladone. Mia, j'ai 29 ans, je suis non-binaire, je me suis un peu extrait du genre. Je me vois ni homme ni femme et je vis ni comme l'un ni comme l'autre. Donc dans la vie privée, je me genre au masculin, mais dans le travail au féminin. Et je travaille comme escorte grâce à des annonces sur Internet à Paris. En 2017, pour des raisons personnelles, c'était pas des raisons de travail, j'ai fait un gros burn-out et je travaillais dans un bureau, un travail très normal et ennuyeux, dans un cabinet d'études. Plus j'ai rompu à ce moment-là, donc il fallait que je trouve le moyen de payer mon appartement qui était trop grand pour moi. Enfin, c'était bon, il fallait que je trouve un moyen de subsistance assez rapide et puis simplement l'escorting. Ça m'a bien plu, j'aime les horaires, la liberté. Donc j'ai continué depuis et puis j'en ai fait vraiment mon métier à plein temps, quoi. J'ai démissionné de mon emploi, j'ai retrouvé une bonne indépendance financière grâce à l'escorting. Quand on a annoncé le confinement, j'étais chez une amie depuis quelques jours déjà, peut-être à peu près une semaine. Et il y a eu la question de savoir si je resterais avec elle ou si je l'accompagnerais à la campagne ou si j'irais chez une autre amie qui a aussi des animaux. Et à ce moment-là, comme j'allais pas très bien, j'étais pas forcément capable de... Enfin, ça aurait été une mauvaise idée que je me mette à confiner tout seul dans mon 10 mètres carrés, donc je suis restée chez cette amie finalement. Quand le confinement a été déclaré, j'avais pas un énorme besoin de travailler, j'ai quand même eu beaucoup de chance là-dessus, j'avais quelques sous de côté, il me faut pas grand-chose pour vivre au quotidien. Donc j'ai changé mon annonce habituelle qui propose des rencontres pour mettre une annonce qui proposait des échanges par SMS, du téléphone rose quoi, mais par écrit parce que je déteste le téléphone. Le téléphone rose par SMS, c'est... Alors c'est un peu galère quand on fait pas de selfie, ce que je ne fais pas. Je m'attendais à faire la conversation, à faire beaucoup de social time, comme on fait en rendez-vous souvent. Et finalement, ça a été des échanges de sexto d'une heure, ou toute la journée, par exemple, s'ils voulaient des échanges continus. Mais il y a eu quasiment que des prestations d'une heure qui ont été prises. Et donc, c'est un accompagnement à la masturbation, en gros. On fait des échanges de sexto. J'ai fait quelques selfies quand même, parce que dans le bain, ça va, je tolère. Et puis j'ai fini par faire toujours un peu la même chose, c'est-à-dire décrire en gros, si on était en rendez-vous réel, qu'est-ce que je ferais? Et du coup je disais, voilà, je te ferais ça, je te ferais ça. Ou donner des ordres, par exemple, pour faire une sorte de masturbation guidée, un truc pas tout à fait domination, mais quelque chose un peu comme ça, avec des directives pour que la personne se masturbe. Et fallait essayer de maîtriser le rythme pour que ça dure une heure, parce que j'aime pas trop faire des heures sup. Après, c'est vraiment très redondant et ennuyeux, quoi. C'est pas... La première fois avec chaque personne, encore, ça va, mais la deuxième fois, il faut pas trop se répéter. En même temps, c'est exactement la même chose qu'on est en train de faire dans les mêmes circonstances. Enfin, il n'y a pas trop de nouveautés, donc j'ai trouvé ça assez ennuyeux. J'ai pas eu beaucoup d'informations sur la situation des clients que j'ai eus. Il y en a deux ou trois qui ont vaguement évoqué leur femme... Je me dis d'ailleurs que s'ils étaient confinés avec leur femme et qu'ils faisaient appel à mes services, c'est que ça devait pas très très bien se passer. Il y en a un qui a fini sur le canapé, mais j'ai pas spécialement demandé d'explication et il m'en a pas donné. Et mes journées s'organisaient mollement. Je me couchais à 5-6 heures du mat, donc en général je me levais vers un petit 13 heures. Je me faisais nourrir par mon hôtesse, qui fait très bien la cuisine. On avait un accord cuisine-ménage. Et donc j'avais des propositions en général dans la soirée. C'est surtout là que je travaillais. Mes tarifs, c'était 40 euros l'heure. Et après, c'était très dégressif. J'avais prévu un tarif, je crois, de 100 ou 150 pour une journée complète d'échange. Ça n'a jamais été pris. Les gens prenaient plutôt l'heure à 40 euros. Une partie servait à payer les courses, quand même, pour nous deux. Et puis, je déposais une partie sur des cagnottes de collègues qui pouvaient plus travailler et qui avaient... Enfin, souvent, on vit financièrement au jour le jour, donc c'était pour distribuer, quoi. Une partie des cagnottes a été donnée en liquide à des associations de santé communautaire et a été distribuée comme ça. Il y a eu aussi des colis alimentaires, des choses... Il y a eu beaucoup d'aide. Et donc, par mon petit travail de téléphone rose, j'ai pas énormément eu de demandes, mais ça m'a permis de contribuer un peu à ces cagnottes-là, vu que moi, j'étais bien. J'ai mentionné ça, que j'alimentais ces cagnottes. Je l'ai mentionné sur mon annonce pour inciter les gens à prendre ce service. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout pris le service, mais qui ont simplement envoyé des sous sur mon pot commun. Il y a eu beaucoup de solidarité intracommunautaire, ne serait-ce que pour les hébergements. Pas mal de personnes ont perdu leur logement à ce moment-là. On s'arrange pour faire un monde vivable, pas toujours légalement d'ailleurs, parce que l'entraide entre nous, c'est considéré comme du proxénétisme, même si c'est entre TDS qui ont exactement le même statut. Donc, par des moyens détournés et parfois illégaux, on pallie le manque d'une structure institutionnelle correcte.
Ça veut dire quoi, TDS ?
Travail du sexe, ou travailleur du sexe, selon le contexte. Je pense que je suis très privilégiée déjà de ne pas avoir dû travailler pendant cette période-là. Émotionnellement, j'étais très bien pendant cette période. J'ai adoré le confinement. Après, je suis autiste. Et c'était un peu la période où rien ne me forçait à sortir ni à voir des gens. Donc j'étais très très bien. Le déconfinement, c'était assez dur. Déjà psychologiquement, je devais sortir d'un état de stase qui m'avait complètement convenu. J'avais un peu l'impression d'être refoutue dans l'hiver après un bain tout tiède. Je voulais pas déconfiner, c'est pour ça qu'on a laissé traîner. Ma co-confinée avait pas très envie non plus. Beaucoup d'anxiété. Et puis les infos étaient un peu floues. Je savais pas trop si je pourrais retravailler tout de suite. En gros, pendant la première moitié du confinement, j'ai eu plein de demandes de rendez-vous. De gens qui, du coup, n'avaient pas... comme d'habitude, lu l'annonce. La deuxième moitié du confinement, silence radio, tout le monde, soit qu'ils ont compris après s'être pris plusieurs vents, soit que la libido de tout le monde s'est effondrée, ce que j'ai pu constater autour de moi dans le privé, donc c'est possible que ce soit arrivé à la clientèle aussi. Et après le déconfinement, ça n'a pas repris, ça c'était un peu inquiétant. Parce que, avec ma trésorerie, moi je commençais à trop tapé dans les réserves, quoi. Je pouvais plus me permettre de pas travailler des mois. Et ça a mis, je pense, à peu près un bon mois à vraiment reprendre, petit à petit. Et là, il y a un gros blanc en ce moment à nouveau. Je crois qu'il y a la peur du deuxième confinement qui panique un peu tout le monde. Peut-être la rentrée, c'est compliqué pour les gens, je sais pas trop. Souvent, à la rentrée, il y a un sursaut de clients qui arrivent parce qu'ils rentrent de vacances, parce que les enfants ont retourné à l'école, c'est plus pratique pour aller voir les putes, tout ça. Là, ils se font bien attendre. J'ai pas autant de prises de contact par jour que j'en ai normalement. J'en ai très peu. Alors, les gestes barrières, vu mon style de travail, j'oublie. Je travaille en girlfriend experience, donc avec beaucoup de câlins, de baisers, de choses comme ça. Donc je n'applique pas du tout dans mon travail les gestes barrières. Les risques que je prends dans le travail, je les prends pas dans ma vie personnelle, par exemple, histoire de pas les multiplier. Là, en plus, je vis à moitié chez quelqu'un qui peut vraiment pas se permettre d'attraper le Covid. Donc j'ai pas peur pour moi, parce que j'ai toujours été à moitié inconscient quand ça me concerne, mais pour mon entourage, ouais, je fais gaffe. Donc j'ai annulé les plans à risque. Dès que quelqu'un a des symptômes, je le vois pas. Après, les clients, s'ils ont des symptômes, ils sont censés pas me voir non plus. Enfin, j'allais dire, je compte un peu sur eux là-dessus. C'est idiot, il faut pas compter sur eux. J'ai eu plusieurs annulations le jour même ou juste avant pour des fatigues, tout ça. Et ça faisait pas plan bidon, ça faisait vraiment annulation d'inquiétude. Je pense qu'il y a des clients qui font un peu gaffe, ouais. Du coup, je les ai pas vus, donc c'est dommage parce que ces gens sont des gens plus responsables et donc probablement de meilleurs clients. Après, ce que j'ai vu vraiment... Ça n'a pas été un sujet, en fait. C'est anxiogène comme sujet, du coup, ça pourrait un peu gâcher l'ambiance, je sais pas. Ça n'a pas trop été un sujet.
C'est moi. Ça fait longtemps. Je pensais à toi. Tes mains, ton visage, ta voix. Je reviens vite.
Je viens au Chauchotte depuis 99, donc ça fait 21 ans. Ouais. J'ai réfléchi plusieurs fois pour venir au Chauchotte avec le visage masqué. Depuis le déconfinement, j'ai dû venir 5-6 fois, prends un risque. Maintenant, c'est le petit désir qui fait qu'on saute les barrières et que malgré le virus, on y va quand même.
Le théâtre Chauchotte, c'est un endroit où les femmes font des spectacles. Des petites scénettes érotiques, on danse, on déshabille, c'est pas Broadway, mais c'est des petites scénettes qui enveloppent l'idée, qui enveloppent le fantasme.
Donc je m'appelle Thaïs, je travaille au théâtre Chauchotte depuis 3 ans. J'ai en réalité... non, j'ai 25 ans. Le samedi soir où le théâtre a fermé pour 2 mois, je crois, je travaillais. Et c'est à ce moment-là, on nous a dit, exceptionnellement, on fermera plus tôt en raison du coronavirus et tout. Et j'étais très étonnée. Et c'est là que j'ai pris conscience un peu de l'ampleur du phénomène. Je pensais revenir une semaine après ou 2 semaines après. Et finalement, je suis revenue, je crois, 2 mois après. Je craignais que ça puisse ne pas rouvrir. Puis ça me manquait parce que je viens à un côté... pour moi, très addictif dans cette scène particulière. Et j'étais très contente de reprendre. C'était comme une nouvelle première fois. Moi, je sais que quand je m'absente du théâtre une semaine et que je reviens sur la scène, je suis très, très stressée. Je tremble et tout ça. Et là, c'était amplifié. Donc, c'était chouette parce qu'en fait, c'est un trac que, à force de venir tous les jours, je peux perdre. Et que là, le fait de le retrouver, ça m'a bien plu, en fait. Ça m'a reboostée. Et c'était très joyeux de retrouver toutes les filles... J'ai eu un peu de mal à m'adapter, j'ai encore un petit peu de mal avec le fait de ne pas voir s'il y a un sourire derrière le masque ou pas. Alors évidemment, on peut décrypter les regards, mais c'est quand même moins évident, c'est plus ténu. Pour moi, c'est très embêtant, mais bon, évidemment, on fait avec. Je suis peut-être un peu plus sur la défensive, justement, parce que j'ai l'impression d'être parfois mal reçue, alors que je pense que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et puis, il y a aussi une question de distanciation qu'on s'efforce de respecter, parfois difficilement, mais qu'on s'efforce quand même de respecter. Les mesures barrières sont vraiment à l'antithèse de ce théâtre, en fait. Donc c'est compliqué, mais on fait avec. Et pour les clients, j'ai plutôt l'inquiétude que j'entends. C'est plutôt, je devrais pas être là, mais tant pis, et puis toi, je te fais confiance et tout. Je vois pas pourquoi. Pour le spectateur, c'est le jeu, les allers-retours entre la danseuse un peu icône, un peu lointaine, et puis le rapprochement tout d'un coup, presque le contact avec sa peau. Et là, bon, y en a moins. Il y a eu une phase où ils avaient tendance à pas trop respecter le port du masque, à le porter sous le nez, etc. Ou ne pas le mettre du tout, à le retirer au bout d'un moment. Et puis comme on a été tout assez solidaires là-dessus, à leur dire à chaque fois, il faut le remettre. Bon, bah, je crois que c'est quand même rentré dans leurs habitudes et ça se pose même plus tellement comme question. Donc, une bonne partie, on les connaît déjà, donc le lien, il est déjà installé. Mais c'est vrai que c'est difficile de créer un lien avec un inconnu dont on ne connaît pas le bas du visage. Et moi, comme d'autres, je pense, parfois, on leur demande quand même de retirer le masque une seconde parce que c'est trop frustrant de parler à quelqu'un droit dans les yeux sans voir à quoi il ressemble. Enfin, c'est quand même assez étrange.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail ?
Moult choses. Non, le contact avec les gens, il est Il est passionnant. Il y a une sorte de reprise de pouvoir qui est assez intéressante par rapport aux hommes. C'est un lieu qui m'a permis de me sentir puissante pour la première fois de ma vie. Parce qu'on me regarde, parce que je sens, si ce n'est du désir, au moins de la curiosité ou de la sympathie ou quelque chose, quoi. J'ai fait d'autres choses avant d'être ici. J'ai enseigné et j'ai étudié. J'étais dans un autre univers. Et cet endroit m'a donné pour la première fois le sentiment de servir à quelque chose, d'être utile et de faire du bien. Ça me fait un peu exister. Mais c'est vrai que j'ai conscience de prendre des risques. Plus que beaucoup de professions, je pense.
Meine Spuren sind überall. Ich hab das Blut nicht abgewischt. Du bist mir auf den Fersen dicht. Bitte fass mich an. Ich Granit, du Kristall. Zusammen sind wir Zucker. Finde mich, hast's fast geschafft. Wir atmen schon dieselbe Luft. Ich hab alles mitgebracht, die Wahrheit und den Wahn. Sprich mit mir in neuen Zeichen, brich mit mir die alten Bräuch. Ihre Helden, unsere Leichen, du hast mich doch längst gefasst. Ich Granit, du Kristall, zusammen sind wir Zucker. Unser Mut ist dir Zerfall, ich warte auf dich, Feuer.
C'était Escorte au temps du Corona, reportage de Pauline Verdusier, réalisé par Clémence Gross et mixé par Eric Villenfin. L'attaché de production, c'est Mélissa Foust avec Roxane Poulain. Merci à Lolita, à Mia au théâtre Chochotte, à Anaïs et à Thaïs. Sachez que notre nouveau podcast intitulé La séparation en 7 épisodes sera disponible dès demain, dès jeudi, sur toutes les plateformes, sur l'application de Radio France et sur franceculture.fr. Ça raconte 25 ans de la vie d'un couple entre leur mariage en 97 et 2020 au temps du corona, et c'est signé Sophie Simoneau. Donc dès jeudi à vos tablettes et à vos podcasts.